France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans la marche des sciences, une émission spéciale Bac SBT.
Quelles sont les recherches? Aujourd'hui, on nous dit, on a fait un commissariat à l'énergie solaire, mais vous savez comme moi que l'énergie solaire, il y a le problème du stockage qui se pose. Alors, je ne comprends pas pourquoi on ne pense pas à la géothermie profonde. C'est mon dada. J'ai peut-être tort, vous allez peut-être me le démontrer, mais pourquoi, enfin, nous sommes sur un globe, sur une masse d'énergie fabuleuse qui est la Terre, et on ne fait rien pour l'utiliser. Ce qu'on va, on va chercher trois gouttes d'eau chaude qui existent déjà pour se chauffer les pieds, n'est-ce pas ? C'est pas ça la géothermie. La géothermie, ça consiste à injecter de l'eau dans le ou un autre élément, je ne suis pas un technicien, mais enfin à profiter de cette quantité fabuleuse d'énergie qu'est la Terre, aller la chercher, à s'enfoncer assez profondément pour la trouver en quantité suffisante, lui envoyer un liquide quelconque qui sera transformé, chauffé et qu'on pourra utiliser pour faire tourner les turbines.
Ainsi s'enflammait l'écrivain René Barjavel dans l'émission Rencontre sur France Culture le 16 avril 1978. Et oui, la Terre est une formidable machine thermique, un réservoir de chaleur inépuisable pour des milliards d'années, mais encore trop peu exploité à l'échelle nationale et internationale. Or, en ce temps de réflexion sur l'avenir de notre planète face au réchauffement climatique, la géothermie ouvre des perspectives formidables qui génèrent depuis les années 70 et le premier choc pétrolier des projets et des expériences riches d'enseignements. Les objectifs du Grenelle de l'environnement et ceux qui concluent les COP et autres sommets successifs ont placé au cœur de tous les enjeux les énergies renouvelables, ces sources de chaleur inépuisables et non émettrices de gaz à effet de serre, dans l'espoir de pallier l'épuisement des ressources fossiles. Mais l'idée ne date pas d'hier. Nikola Tesla, lui-même ingénieur inventif à qui l'on doit des avancées majeures en énergie électrique, avait déjà en son temps, au début du XXe siècle, perçu le potentiel de la géothermie. Et oui, l'histoire des sciences nous montre souvent que le temps long est nécessaire pour faire aboutir de belles idées. À l'occasion de la semaine Bac sur France Culture, nous avons choisi de traiter de l'épreuve de SVT pour les élèves de Terminal S et de plonger dans l'un des chapitres du programme « Géothermie et propriétés thermiques de la Terre », une émission spéciale en direct sur France Culture et en compagnie de Claude Jopard, membre de l'Académie des sciences, directeur de l'Institut de physique du globe de Paris, et il est auteur notamment du livre « Les volcans » paru chez Flammarion, et avec nous aussi Annie-Claire Buave-Bardin, agrégé de SVT, professeur principal des terminales S au lycée Marie Curie de Sceaux, et à ses côtés, la présence de certains de ses élèves de la classe de terminale S4, une émission entièrement consacrée à cette épreuve SVT, sciences de la vie et de la Terre, et émaillée d'archives sonores de l'INA grâce à Anaï Morales, archives sonores comme celle-ci, par exemple, la Maison de la Radio, pionnière en géothermie depuis sa création en 1963.
Monsieur Calandini, nous sommes dans l'antichambre de la chaufferie de la Maison de la Radio.
Oui, en définitive, on appelle ça chaufferie, mais c'est une centrale thermodynamique, puisque le principe de fonctionnement est basé sur la récupération de chaleur par une source qui, par l'intermédiaire d'un forage, nous permet d'utiliser de l'eau à 27 degrés, de la nappe phréatique. Cela nous permet de compléter notre système de chauffage. Notre système de chauffage est d'une part la récupération de chaleur produite dans les studios, les nombreux studios de la Maison de la Radio, c'est-à-dire la chaleur de l'éclairage, des équipements techniques et voire du public, qui nous permet de chauffer les bureaux en hiver. Et évidemment, comme cette chaleur est constante et insuffisante en hiver, il faut que nous trouvions un complément. Ce complément nous est donné par cette nappe phréatique.
Bien, ben nous allons rentrer dans la salle de chaufferie. Pas de bruit d'eau, seulement des bruits de machines. Alors ce bruit particulier que nous entendons, c'est finalement ce qui est apparent de cette nappe phréatique.
Oui, en fait, nous avons simplement le moteur électrique qui apparaît, qui est en bout de l'extrémité visible, l'autre extrémité étant à 550 mètres de profondeur, atteignant cette nappe d'eau à 27 degrés. Mais en fait, la pompe qui nous donne cette eau, qui nous permet d'utiliser cette eau, est immergée à 42 mètres, car le forage est artésien.
C'était un reportage proposé dans l'émission Les Après-midi de France Culture le 23 juillet 1974. Vous allez voir, les années 70 effectivement étaient en ébullition par rapport à cette géothermie. Et donc c'était un reportage de Pierre Jonchère qui interviewait Monsieur Calandini, responsable du chauffage de la Maison de la Radio à l'époque. Et donc cette Maison de la Radio avec de l'eau extraite donc en ce temps-là du bassin de l'Albien, nappe phréatique souterraine à une température de 27 degrés, réchauffée ou refroidie en passant dans une pompe à chaleur et donc acheminée ensuite dans la Maison de la Radio qui a donc été cette pionnière en matière de géothermie. Bonjour Claude Jopard.
Bonjour.
Bonjour Annie-Claire Abuabardin.
Bonjour.
Et bonjour à vous, jeunes gens autour de la table. Donc dans l'ordre, Adrien, Hugo, Maya, Guillaume, Arthur et Lukasz avec nous et qui effectivement seront présents aussi pour prendre part à cette émission spéciale Bac SVT. Alors Annie-Claire Abuabardin, donc vous êtes professeure de SVT au lycée Marie Curie de Sceaux et donc on a choisi effectivement ensemble un sujet qu'on va vraiment décortiquer, prendre à bras le corps dans la deuxième partie de l'émission. On peut peut-être donner tout de suite le sujet, l'intitulé. C'est le sujet de dissertation. Il faut préciser que c'est une épreuve pour les terminales S, gros coefficient.
Tout à fait, voilà. Donc effectivement, c'est une épreuve qui est à coefficient 6 pour ceux qui sont non spécialistes. Et s'ils ont choisi la spécialité SVT, donc ce coefficient monte à coefficient 8. Donc c'est un coefficient tout à fait similaire aux autres épreuves scientifiques, que sont les sciences physiques, qui peut être coefficient également 6 ou 8, et les mathématiques coefficient 7 ou 9.
Alors nous avons choisi de porter notre regard sur un des chapitres au programme, géothermie et propriétés thermiques de la Terre, et donc avec ce sujet de dissertation que vous nous proposez.
Alors donc le sujet s'intitule donc « La Terre est souvent considérée comme une machine thermique ». Et donc on a un intitulé donc qui est « Après avoir précisé l'origine de l'énergie interne du globe terrestre et les différentes manifestations en surface de la libération de cette énergie, vous expliquerez comment l'homme peut en tirer parti dans le cadre d'un approvisionnement énergétique durable ». Et puis donc il y a une petite phrase de conseil « Un schéma explicatif au minimum est attendu ».
Donc tout ça, on va passer ça en revue tout à l'heure et également recueillir les réactions de vos élèves qui ont planché ces derniers temps sur ce sujet et ont préparé également leurs copies. Alors avant d'entrer dans ce vif du sujet, Claude Jopard, allons-y peut-être tout de suite. Est-ce qu'on peut donner une définition précise de la géothermie ?
Bien oui, je crois que la géothermie, c'est l'utilisation des ressources thermiques que contient la Terre, puisque la Terre est à haute température en profondeur, et c'est l'utilisation de cette énergie. Alors, ça n'est pas évident puisqu'il faut aller la chercher, parce qu'elle n'est pas disponible à la surface, à nos pieds.
Alors, une problématique importante, on imagine, dans un monde énergivore, où il faudra très vite, on le sait, on entend souvent parler de ces questions-là, trouver des solutions autres que les énergies fossiles et autres peut-être que le nucléaire, en tout cas qui couvre l'essentiel des besoins énergétiques de la France, par exemple. En France, les énergies renouvelables ne représentent que 8,2% de la totalité des énergies.
Oui, c'est un tout petit chiffre. Ça dépend des endroits, parce que l'utilisation de l'énergie géothermique, comme vous l'avez souligné, elle a été faite aussi à la Maison de la Radio, donc en plein cœur de Paris. Et c'était effectivement une installation pionnière à l'époque. Il y a d'autres villes de la région parisienne qui sont chauffées aussi par géothermie. Mmh. Et puis, dans certaines îles que la France a, qui sont les îles de Guadeloupe, de Martinique ou l'île de la Réunion, ce sont des îles volcaniques où là, l'énergie géothermique est très, très forte et relativement facile à extraire. Et d'ailleurs, la Guadeloupe a une installation géothermique très performante.
Alors, que sait-on de cette énergie interne de la Terre ?
Alors, on sait que la Terre est chaude. On peut aller mesurer la température interne de la Terre de différentes manières. Notre thermomètre n'est pas très précis. On la connaît, disons, à plus ou moins 100 degrés. Mais on sait qu'à, disons, à 100 km de profondeur, on est à 1400 degrés Celsius, à peu près. Et donc, c'est une température énorme. Et comme la Terre a une masse énorme, c'est avoir porté les roches terrestres à cette température-là, ça a nécessité beaucoup d'énergie. Et inversement, si on est capable d'aller capter cette énergie-là, donc on aura beaucoup de choses à faire fonctionner avec.
Alors historiquement, on sait depuis, on peut dire l'Antiquité, hein, que l'intérieur de la Terre est chaud.
Oui, bon, les Romains le savaient. Les Romains utilisaient des bains chauds. Les Romains sont à côté de volcans aussi, donc ils auraient vu des éruptions volcaniques. Il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour voir que les volcans, ça, c'est chaud. Les Anglais utilisaient des bains aussi. Donc, dès lors aussi que les gens sont allés chercher des minerais en profondeur, ils se sont un peu enfoncés dans la terre, un peu dans les montagnes, et ils ont constaté que la température s'élevait. Donc, on lui savait que plus la mine était profonde et plus il faisait chaud. Donc voilà, la Terre était plus chaude en profondeur qu'à la surface.
Alors je disais en introduction d'émission que Nikola Tesla, en son temps, hein, notamment au début du XXe siècle, avait pris conscience de l'importance de la géothermie. À quel moment est-ce qu'on peut dire qu'il y a une véritable prise de conscience aussi de l'exploitation possible de cette source d'énergie ?
Ben c'est aussi en Italie, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être. Le premier, c'est un comte italien dont j'ai malheureusement oublié le nom, qui a fait la première machine thermique à Larderello en Italie. Larderello, c'est un site volcanique. Toute l'Italie, d'ailleurs, est perclue de sites d'anciennes éruptions. Beaucoup de lacs autour de Rome sont en fait des lacs de caldera, donc sont le résultat d'explosions volcaniques assez d'ailleurs violentes. Et donc à Larderello, il y a une installation thermique qui est depuis très très longtemps très active et qui produit une quantité d'énergie qui représente peut-être, je crois, rien que l'Arderello, c'est de l'ordre de 5% de la consommation d'énergie de l'Italie. Et le comte en question avait repéré tout simplement que les voisinages de l'Arderello, ça ressemblait à une chaudière sous pression, ce que c'est. Et donc, il en avait conçu l'idée qu'on pouvait l'utiliser pour faire des machines thermiques, des machines comme les machines à moteur. Donc, il avait créé la première petite centrale géothermique qui ne prenait pas beaucoup d'énergie, mais qui fonctionnait. Il avait fait fonctionner des machines avec cette énergie-là. Et ça s'est développé ensuite. Et d'ailleurs, le site de l'Arderello est en utilisation depuis maintenant, ça fait plus de 60 ans. Donc, ça marche très très bien.
Et en France, par contre, si je dis que c'est plutôt à partir des années 60-70 qu'on regarde plus précisément vers la, en tout cas, la géothermie... Je ne dis pas des bêtises, en tout cas.
On a pris conscience dans les années 60 que c'était une énergie qui était disponible, donc qu'il fallait l'utiliser. En France, on a naturellement cherché au voisinage du Massif Central, puisque c'était un site volcanique. Le problème du Massif Central, c'est que pour avoir l'énergie géothermique, il faut avoir des températures élevées, ce qui est réalisé dans le Massif Central, mais aussi il faut avoir de l'eau. Parce que sans eau, on a du mal à la transporter, cette énergie. Et il n'est pas question d'aller prendre les roches elles-mêmes, parce que ce serait beaucoup trop coûteux, et puis ça demanderait des excavations absolument énormes. Donc la solution, c'est de faire circuler de l'eau dans des roches chaudes. Dans le Massif Central, ça ne marche pas très bien et on a fait d'ailleurs un certain nombre de tentatives dans les années 70 pour créer des réseaux de fractures qui pouvaient aller faire pénétrer l'eau dans les roches chaudes, mais ça s'était révélé un échec. Mais on a ensuite réalisé que près de nous, il y avait d'autres sites potentiellement intéressants, comme par exemple le rift du Rhin. Donc, le Rhin est un site actif, d'ailleurs où il y a du magma encore en profondeur, on le sait pas beaucoup, mais en Allemagne, il y a des éruptions volcaniques très récentes, des grosses... L'Allemagne est un pays volcanique, très très volcanique.
C'est vrai qu'on est peu à le savoir.
Hein. La dernière éruption volcanique en Allemagne, c'est celle du Lac Rosé, qui a 11 000 ans. Et c'est une énorme éruption. Si vous allez dans cette région, c'est très beau. Il y a un magnifique lac. Et ce lac, c'est une caldeira de volcan. Et donc, le rift du Rhin est un site actif. Et on est à l'heure actuelle en train de développer une installation géothermique là-bas.
Vous dites on, c'est-à-dire l'institut.
C'est la compagnie française de géothermie. D'accord. Qui est active aussi en Guadeloupe, mais qui développe pour l'instant des tests. Et d'ailleurs, c'est des tests qui sont maintenant qui marchent bien. Il y a quelques petits problèmes, si vous voulez, on pourra en parler. Mais le site de Soult est un peu particulier parce que les eaux ils sont très très corrosives.
Si, mais quel problème il peut y avoir justement ?
Bien simplement, c'est que tous les instruments qu'on met dans ces eaux très corrosives, très rapidement, sont complètement détruits. Et donc, il faut trouver les bons alliages et les bons matériaux. Et donc, ça pose des petits problèmes pour des raisons qu'on connaît maintenant. Dans ce site-là, avec toutes les roches sédimentaires et tout l'assemblage rocheux qu'il y a là, les eaux sont extrêmement corrosives et plus corrosives que dans certains autres sites, comme par exemple celui de la Guadeloupe.
D'accord. Et alors du coup, moi j'avais relevé dans certains articles de presse des dernières années des conséquences où dans certains villages en Alsace par exemple à Lorvillers ou alors du côté de l'Allemagne mais près de la frontière alsacienne à Stoffen im Breisgau, c'était en 2010, des fissurations de maisons et de bâtiments peut-être à cause de cette fracturation hydraulique, non, pour pouvoir faire remonter la chaleur.
Alors c'est
faire attention au terrain finalement.
Il faut faire attention et puis d'ailleurs le site de Soult c'est un bon cas donc pour essayer de tenter d'accélérer la circulation de l'eau, on met plus de pression. Il ne s'agissait pas de fracturer les roches, parce qu'elles sont assez fracturées, mais les gens ont voulu accélérer ça, et un des ingénieurs Il y avait pourtant des seuils qui avaient été fixés, et pour des raisons que tout le monde ignore, il a dépassé ces seuils-là, et donc il a créé de la fracturation bien au-delà de ce qui était prévu et ce qui était peut-être maîtrisé. Donc là, il y a eu une erreur technique qui a d'ailleurs coûté très cher, puisqu'effectivement, les gens autour se sont rebellés contre ce genre de test.
Ah oui, parce que leur maison, quand même, partait en morceaux, avec de grosses fissurations, et ils perdaient leurs biens, concrètement.
Bien sûr, mais voilà. C'est une erreur. L'ingénieur a mis une pression trop forte, et on savait très bien qu'elle était trop forte. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Voilà, ça c'est une question, je ne suis pas inspecteur, mais voilà. Il y avait une erreur.
Tout ça effectivement montre qu'il y a cette nécessité de sécuriser malgré tout la production de chaleur géothermique, même si cette perspective, la géothermie, offre de beaux potentiels énergétiques par rapport à l'avenir de notre pays et de la planète d'une manière générale. Alors ça veut dire, Claude Jopard, que de toute façon, pour pouvoir mener ces mesures là de flux géothermique, avoir vraiment une visibilité complète des terrains, des lieux et de cette exploitation, il a fallu développer un arsenal d'appareils de mesure, des méthodes de traitement des données pour déterminer aussi l'état de la structure interne de notre planète. Donc oui. Ça veut dire que là, on fait jouer quel type de d'appareils de mesure, de méthodes. Il y a la sismologie, gravimétrie, géodésie.
Oui, toutes les méthodes, puisque chacune des méthodes qu'on peut déployer ont toutes leurs limites. Donc pour étudier la structure du sous-sol et à une précision suffisante, une seule technique suffit rarement. La sismologie, qui est l'étude de la propagation des ondes sismiques dans le sol, permet de distinguer très facilement des interfaces, des contacts, mais par contre est moins opérante pour déterminer la caractéristique du milieu. Et ce qui vous intéresse par exemple en géothermie, c'est de savoir si le milieu est perméable, s'il est gorgé d'eau, et si cette eau est disponible, c'est-à-dire si l'eau peut circuler. Ça ne suffit pas de savoir qu'il y en a, mais il faut que les pores et les fractures soient connectés de telle manière qu'il y ait un circuit complet qui permette d'aller à un point à un autre. Et ça, les techniques de géophysique classiques étaient peu opérantes. On utilise par exemple aussi les signaux électriques. Donc on étudie la résistivité électrique du sol. Mmh. Et ça donne à la limite plus de renseignements que la sismologie, puisque c'est très sensible à la présence d'eau et à la connexion des petites fissures d'eau.
Oui, parce que finalement, la Terre, quand il y aura justement, on en parlera tout à l'heure avec Madame Abeuf Bardin par rapport à ces schémas que les élèves pourront proposer dans la copie, c'est que cette Terre, effectivement, elle n'est pas uniforme en matière de chaleur qu'elle renvoie. Donc il faut pouvoir quand même aller chercher les endroits exploitables.
Mais heureusement, parce que même si la Terre en fait est assez chaude dans l'ensemble, cette chaleur est disponible en très grande profondeur, donc ce serait très très difficile d'y avoir accès. Mmh. Heureusement, puisque la Terre est active dans certaines régions, la chaleur nous a apporté, et c'est apporté par les magmas, donc les magmas sont gentils, ils font tout le travail, ils nous amènent la chaleur près de la surface.
Il faut remonter beaucoup de choses, des roches, des diamants aussi.
Des diamants, oui. Oui,
c'est vrai, quand on s'intéresse et quand on rentre dans cette histoire et cette mécanique terrestre, c'est assez fabuleux. On n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, Claude Jopard, mais parlons peut-être des manifestations variées d'ailleurs de ces sources de chaleur. Donc on a compris qu'il y avait les volcans avec la lave, donc les sources thermales, les geysers.
Mais c'est toute l'activité du globe. Sans chaleur, on ne peut pas faire fonctionner une machine, et la machine thermique Terre utilise sa chaleur pour faire tous ces événements. Il n'y aurait pas de dérive des continents, il n'y aurait pas d'expansion des fonds océaniques sans chaleur, il n'y aurait pas de volcanisme, vous l'avez dit, mais il n'y aura pas de formation de rift, de bassin sédimentaire. Nous sommes assis sur un bassin sédimentaire qui est tout simplement le résultat de l'extension de la lithosphère, et ça se fait, ça demande des forces considérables, une énergie considérable, et il faut que cette énergie soit disponible. Donc tous les phénomènes géologiques sont in fine liés à la chaleur de la Terre. Sans chaleur de la Terre, il n'y aurait aucun phénomène géologique actif.
Alors la Terre, c'est vrai qu'on peut donner quelques éléments. Elle est née chaude. On estime qu'elle a débuté à l'état liquide, à une température moyenne de plus de 2000 degrés, et donc une énergie interne énorme. Et alors par contre, j'ai appris que, elle s'est formée, ça on le savait, il y a 4 milliards et demi d'années, mais j'ai appris qu'elle avait perdu depuis ce temps-là 400 degrés.
À peu près, oui. On estime qu'en moyenne, elle se refroidit à un taux de 100 degrés par milliard d'années.
Donc, on a encore une belle source de chaleur à exploiter, c'est ça?
Écoutez, si on continue, on est à 1400 degrés à l'heure actuelle, donc à 100 degrés par milliard d'années, on en a encore pour 14 milliards d'années.
Bon. Alors la Terre est donc cette magnifique machine thermique dont la dissipation de l'énergie thermique constitue le moteur de la dynamique des plaques lithosphériques. Et puis les volcans en font partie. Retour en immersion dans les archives sonores de l'INA. Je vous propose d'écouter ce reportage mené par Jean Neuvecel à Catane en décembre 1950 et qui a été diffusé dans l'émission Les Lundis de Paris à la radiodiffusion française. C'était le 30 juillet 1951.
Allô, ici Catane. Allô, ici Catane. Allô Paris, ici Catane. C'est l'Etna et qui cette nuit donne le spectacle. Le dernier barrage franchi, nous sommes arrivés sur la grande place de Rinazzo, devant l'église, à 400 mètres de la lave. Le village est évacué. Les maisons sont là tristes et noires. La nuit est déchirée par le vent. Nous sommes devant la coulée principale de la lave. Elle avance de 30 mètres à l'heure. Il vient de dévorer une maison, une centaine de mètres plus haut. De la maison, rien ne reste plus. L'énorme rouleau compresseur l'a recouverte entièrement après l'avoir broyée. On entend la voix de la lave. C'est un mur de 10 mètres de large, de 8 mètres de haut, près, formé d'énormes blocs de pierre incandescente. Le souffle chaud de la lave coupe la respiration. Le vent glacé fait voler les étincelles et une poussière fine de cendre. Le mur devant moi s'agite, crépite, lance des flammes hautes et courtes.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Document exceptionnel, hein, de décembre 1950, Jean Neuvecelle, donc, et ce reportage à Catane. Donc, l'Etna, vous-même, Claude Jopard, vous avez eu l'occasion comme ça d'approcher des volcans
Ah oui, oui, de toute façon, si on est volcanologue, ce serait absurde de rester dans son bureau.
Ben oui, dommage même.
Ce serait dommage, mais aussi absurde. C'est certainement pas pour ça que je suis devenu volcanologue, c'est pas pour rester dans mon bureau. Par contre, je fais plus de théorie et puis d'expérience de laboratoire, mais sans contact avec le terrain, on ne peut rien avancer, parce que les systèmes sont trop compliqués, on peut pas les imaginer simplement tout seul dans son bureau, il faut aller les voir. Et puis aussi pour répondre à un certain nombre de questions qu'ils posent eux-mêmes, puisqu'il y a un certain nombre de phénomènes qu'ils offrent, qui parfois ne sont pas toujours décrits. Donc oui, j'en ai vu, je suis allé à l'Etna plusieurs fois. L'Etna, c'est un volcan fantastique, hein, énorme. D'ailleurs, c'est une anomalie. Hein. Des volcans comme l'Etna, on en a peu sur Terre. Il y a des volcans comme Hawaï qui sont fascinants. Et puis, je vais voir aussi beaucoup de volcans éteints. Parce que les volcans éteints, je peux aller voir leurs entrailles. Comme ça, je peux aller regarder à l'intérieur. Voilà.
Et quand vous dites éteints, en même temps, ils ne sont jamais vraiment éteints.
Alors, la durée de vie d'un volcan, ça dépend des endroits, mais certains volcans peuvent être vivants pendant plusieurs millions d'années. Mmh. Donc, évidemment, c'est quelque chose qui dépasse de loin l'âge d'un volcanologue. Les volcans s'éteignent, hein, ils meurent, ils finissent par mourir. Donc, ils sont rarement éternels. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se méfier. Il n'y a pas un volcan qui a été, par exemple, les volcans dont je parlais tout à l'heure en Allemagne qui ont fait des éruptions il y a 11 000 ans, il faut se méfier. C'est encore des sites qui potentiellement actifs et qui pourraient potentiellement se réveiller de nouveau, comme en France d'ailleurs.
Alors quand vous parliez d'anomalies pour les volcans, c'est-à-dire
d'anomalies, des volcans anormaux, des volcans normaux, et ce qui est intéressant, c'est les volcans anormaux souvent, parce que c'est eux qui vont montrer des phénomènes particuliers qui échappent à la règle commune et qui sont souvent le plus porteurs d'informations. Puisque vous avez, une centaine de phénomènes qui sont actifs simultanément dans un volcan. Il y a de la lave cristallise, les roches se fracturent, elles ne se fracturent pas. Et donc, c'est souvent dans des cas exceptionnels qu'on a des réponses que l'on cherche.
Et alors, donc, ces volcans, alors, sont organisés en chaîne sur les dorsales océaniques ou au-dessus des zones de subduction. Enfin, il y a la zone volcanique utile, c'est ça?
Oui. Alors, la Terre n'est pas active volcaniquement parlant partout, puisque, en fait, si vous regardez une carte du globe, les volcans ne sont pas répartis n'importe où. En général, ils sont répartis en chaîne, en ceinture, et dans des endroits bien particuliers. Dans certains d'autres cas, ils sont dans des domaines un peu plus diffus, comme par exemple, certaines parties du Mexique ou la côte ouest des États-Unis d'Amérique, où il y a une gigantesque région qui est soumise au volcanisme. Mais en général, ils sont répartis dans un endroit très particulier, puisque pour que le magma soit produit, il faut que la Terre bouge. Et sans mouvement interne de la Terre, il n'y aurait pas d'éruption volcanique. Donc les volcans sont finalement les résultats finaux, ultimes, de processus bien plus profonds qui impliquent le globe tout entier. Donc un volcan, c'est un symptôme, c'est un peu comme une maladie, c'est un symptôme de surface, mais dessous un volcan, il y a tout un système qui a été mis en branle et qui en général se développe sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc un volcan, c'est le résultat final d'une activité très très profonde.
Et alors donc finalement, cette capture, j'ai envie de dire, de la chaleur, par exemple, typiquement la géothermie par rapport au volcan. Alors qu'est-ce qu'on met en place, comment est-ce qu'on exploite ça concrètement, dans le cas des volcans, hein, là j'entends.
Alors, dans le cas des volcans, les volcans donc nous amènent le magma près de la surface, près de la surface, il y a en général de l'eau dans les roches. Donc c'est les deux ingrédients qui sont nécessaires et ils sont en général présents dans les volcans. En plus, les volcans fracturent les roches, donc ils les préparent à ce qu'on puisse aller chercher de l'eau là-dedans. Et donc, ils ont ces deux caractéristiques. Donc, c'est ça qui est intéressant chez les volcans. L'eau, ensuite, elle circule. Et comme elle circule, elle va fracturer elle-même les roches. Donc, il y a de la fracturation qui est faite naturellement par ces eaux-là, puisqu'elles sont chaudes et sous pression. Donc, elles vont finalement se propager et étendre le réseau de circulation d'eau. Ça se fait naturellement. Et donc, elles vont pénétrer en profondeur. Et donc, naturellement, dans un volcan, vous avez un système qui finit par aller pomper de l'énergie sur des très, très, très grands volumes. Il faut savoir que sans volcan, il n'y aurait pas d'or non plus, puisque les dépôts d'or sont le résultat de circulations hydrothermales qui viennent arracher l'or aux roches et puis les redéposer ailleurs. Et quand on regarde les dépôts d'or, vous allez voir qu'autour d'un volcan fossile, vous pouvez avoir des circulations d'eau qui ont dépassé des distances de 50 km du site actif. Donc vous imaginez un réseau perméable, une espèce d'éponge dans lequel l'eau circule et qui se développe sur des centaines de kilomètres.
En tout cas, cette exploitation géothermique ne peut pas se faire sur n'importe quel type de volcan.
Alors non, mais donc c'est pour ça que dans certains cas, les gens essaient de faire de la fracturation forcée pour essayer d'aller la chercher, de la faire, alors qu'elle n'existe pas naturellement. Donc les volcans les plus, disons les plus classiques, ce sont les volcans de type explosif, hein, qui sont déjà formés d'édifices très perméables et très poreux, puisque ce sont des dépôts de cendres ou des laves qui se déposent sur ces dépôts de cendres qui se fracturent elles-mêmes. Donc l'édifice lui-même est très très fracturé, ce qui donne d'accès à l'eau. Dans d'autres cas, vous pouvez bénéficier aussi de failles, et donc les failles qui viennent couper certains volcans, et donc l'eau circulera dans la faille, et vous pouvez aller chercher l'eau dans les failles. L'Islande est une île volcanique où il y a des volcans de tous les types, et je crois que les Islandais ont réussi à capter de l'énergie géothermique dans tous les types de volcans. Finalement, en se débrouillant un peu, on arrive à tous les utiliser.
Alors justement, c'est le thème que je voulais aborder avec vous, Claude Jopard, vous lisez dans mes pensées, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, il y a quand même des pays qui ont su développer l'énergie géothermique. Avant d'aller plus loin sur ce thème, je propose d'écouter un autre document sonore sur les Philippines. Cette fois-ci, c'est dans l'émission « Et pourtant elle tourne » de Jean-Marc Four sur France Inter, reportage de Sébastien Farcy, et c'était le 15 septembre 2006.
Alors nous sommes sur un volcan, le volcan de Cuernos de Negros, au sud de l'île de Negros, qui est en plein centre des Philippines. Un volcan éteint, je vous rassure, mais qui produit encore une chaleur infernale de plus de 250 degrés. Et ce que vous entendez là, c'est la vapeur produite par cette chaleur qu'on entend remonter de manière très puissante à la surface. Elle remonte dans des tuyaux qui ont été plantés dans la montagne pour l'alimentation de cette usine de production géothermique opérée par l'entreprise Energy Development Corporation. Vicente Omandam est responsable de la production de cette usine.
Ce puits descend à plus de 2 km sous terre, bien en dessous du niveau de la mer. La vapeur est ensuite transportée à l'usine pour faire tourner les turbines et le générateur, ce qui produit l'électricité.
Cette usine produit presque en continu 200 MW d'énergie. Cela est assez pour fournir de l'électricité à 800 000 habitants de l'archipel. Et les Philippines comptent ainsi 7 usines comme celle-ci, dont l'une est la plus grande du monde. Cela fait en fait que 17% de l'électricité consommée aux Philippines est produite grâce à la géothermie. Alors une énergie propre, mais surtout une énergie durable.
Alors Claude Jopard, donc les Philippines hein, font partie de ces pays moteurs, on peut dire.
Oui, depuis très longtemps. Donc les autres pays, bon, c'est l'Islande, les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont des grandes centrales géothermiques, en particulier en Californie, qui sont très très actives et qui produisent beaucoup d'énergie. Bien entendu, la Nouvelle-Zélande, tout pays volcanique, l'Italie, dont on avait parlé tout à l'heure, et puis l'Indonésie, hein, donc l'Indonésie aussi, le Japon un peu moins. Mais le Japon aussi. Donc tout pays volcanique finalement utilise les volcans. L'énergie géothermique se développe dans le monde. Hein. C'est une énergie qui est à l'heure actuelle assez en faveur. Et le problème de la géothermie, c'est les investissements qu'il faut pour trouver la ressource géothermique. Donc il y a un coût initial à mettre. Mais maintenant, d'abord les techniques se sont affinées. Le coût, c'est essentiellement un coût de forage, puisqu'il faut les savoir s'il y a de l'eau. Et comme je vous l'ai dit, les techniques géophysiques sont pas très opérantes pour détecter la présence d'eau à plusieurs kilomètres de profondeur. Donc finalement, il faut aller y voir. Donc faire un forage à quelques kilomètres de profondeur, ça coûte cher et c'est ça la principale barrière. Mais maintenant, les forages sont moins chers et donc chaque année, l'énergie géothermique se développe. C'est une énergie qui est en croissance continue. On estime qu'à l'heure actuelle, on exploite moins du dixième du potentiel géothermique de la Terre, donc on a de la marge.
Oui. Et moi, j'avais relevé 350 comme chiffre, hein, 350, enfin le nombre de centrales géothermiques dans le monde. En Islande, où on comptabilise quoi, 130 volcans actifs, hein, je crois, on peut dire.
Oui, au moins. Oui. Oui,
au moins, il y a 7 centrales géothermiques. Et c'est vrai que l'Islande est un pays modèle, hein, on peut dire, puisque la géothermie est partout et elle représente 70% dans ce pays de l'énergie primaire consommée quand même. Alors c'est vrai que en France, avec nos 0,44% de la couverture énergétique française avec la géothermie, on est bien bien loin. Mais et pour cause, hein, Claude Jopard, c'est parce que la France a fait le choix du nucléaire.
Alors la France a fait le choix du nucléaire dans les années, oui, très longtemps avant. L'énergie géothermique a été un peu recherchée, mais effectivement avec peu de moyens, puisque finalement les besoins énergétiques de la France étaient couverts. C'était aussi finalement la géothermie est arrivée un peu tard.
Et lorsque, par contre, l'Islande travaille ou a travaillé, vous allez me dire, hein, à un projet d'exportation, je crois, de son modèle, notamment au Royaume-Uni, grâce à un câble de plus de 1100 km de long pour relier les deux pays. C'est vrai ?
Oui, alors il y a ces projets un peu fous. Mais de toute façon, à l'heure actuelle, la technologie géothermique, c'est l'Islande qui l'a. Hein, c'est eux qui sont les plus performants. Donc quand vous développez une usine géothermique, même en Indonésie ou aux Philippines, c'est souvent une compagnie islandaise qui vient faire l'installation. Ils ont une maîtrise complète du domaine, puisqu'ils l'ont testé dans mille et une manières. Alors, ils maîtrisent pas tout. La dernière fois que je suis allé en Islande, j'ai été voir un site où ils pensaient installer une usine géothermique. Ils ont commencé à excaver le site et il y a eu une grosse explosion hydrothermale. Et
quand
donc
vous
le site
étiez...
a... Non, juste après que je sois parti, Dieu merci. Donc il y avait peut-être quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas encore entièrement là. Mais bon. Sinon, eux, c'est vraiment les maîtres de ce type de technologie.
Bon, donc à la rigueur, appel à nos décideurs peut-être pour tisser des liens, des contacts, sait-on jamais, si on veut effectivement se tourner vers la géothermie un peu plus largement. On en aurait les moyens en tout cas, enfin les moyens financiers, il faut les chercher, mais on en a les moyens physiques, puisque vous dites il y a des sources déjà exploitées et déjà même à la maison de la radio. Il est 16h31, presque 32 minutes à ce stade de l'émission, et bien vous allez découvrir le choix musical des élèves de terminale S4 du lycée Marie Curie de Sceaux. Ils nous font la playlist aujourd'hui. Et donc, ce choix musical, c'est la chanson de Wilk N. Miski.
Oui, c'est ça, c'est Clap Your Hands. Oui.
Arthur, c'est parti.
So clap your hands, feel the beat as you start to dance. Hear the rhythm as you take your stance. Feel the love and romance. And stomp your feet. Everybody just bounce to the beat. Taste that rhythm, take hold so sweet. Feel the love as we dance.
Vous êtes sur France Culture en direct et c'est la suite de la Marche des Sciences, émission spéciale Bac SVT, en compagnie de Claude Jopard, membre de l'Académie des Sciences, directeur de l'Institut de Physique du Globe de Paris. Et je rappelle le titre d'un de vos livres, Claude Jopard, Les Volcans, paru chez Flammarion. Et puis on peut citer aussi le CD Volcans, donc qui a été publié par la collection De Vive Voix. Voilà, où on apprend plein de choses. Et puis à mes côtés, Annie-Claire Abueuf-Bardin, agrégé de SVT, professeur principal des terminales S au lycée Marie Curie de Sceaux. Et avec nous, toujours, six de vos élèves de la classe de terminale S4 pour désormais, dans cette deuxième partie de l'émission, s'emparer du sujet que vous nous avez proposé. On va redonner l'intitulé tout de suite, hein, donc sur ce chapitre géothermie et propriété thermique de la Terre, au programme des terminales, bien sûr. Donc, le sujet, Annie-Claire Abueuf-Bardin, c'est à vous.
Alors, donc, le sujet, la Terre est souvent considérée comme une machine thermique. Donc, après, on a des petits conseils hein, sur la manière de présenter la copie. Donc, on demande, après avoir précisé l'origine de l'énergie interne du globe terrestre et les différentes manifestations en surface de la libération de cette énergie, vous expliquerez comment l'homme peut en tirer parti dans le cadre d'un approvisionnement énergétique durable. Et puis, une phrase de conseil, donc, on demande, hein, un schéma explicatif au minimum est attendu.
Alors, avec un tel intitulé, d'emblée, peut-être quelques conseils pour l'épreuve Annie-Claire Abueuf-Bardin, c'est-à-dire quand on a ce sujet-là, on pose sa tête, on repère les mots-clés, les notions, voilà, c'est quoi la posture ?
Alors moi, ce que je conseille aux élèves, c'est de lire plusieurs fois l'énoncé, hein, de lire plusieurs fois l'énoncé, et puis de surligner hein, les termes importants. En un second temps, après, ils peuvent noter au brouillon les idées, les notions qui sont en rapport avec le sujet. C'est un peu la période de brainstorming, si on peut dire. Et en même temps aussi, peut-être, de prévoir un schéma qui serait en rapport.
Alors, du coup, là, les termes importants, par exemple, dans l'intitulé.
Alors, les termes importants, évidemment, bon, il y a le terme de machine thermique. Donc même si on le retrouve pas, mais bon, il va falloir sans doute qu'il définisse la géothermie. Et effectivement aussi, après c'est vrai qu'on a plus des conseils sur le oui. plan en fait après. Hein, donc là, il y a peut-être pas non plus énormément de mots clés en particulier dans ce sujet à définir.
Si ce n'est que le plan est déjà presque, enfin, dans le sujet, on peut dire.
Tout à fait, voilà.
Voilà. On sent qu'il y a trois parties.
Voilà, tout à fait. C'est vrai que ça dépend des sujets, mais là, c'est assez clair. Hein, donc, on dit l'origine. Donc, il y a une partie qui va traiter de l'origine, une partie qui va traiter des manifestations, et puis une partie qui va traiter donc hein, de l'utilisation par l'homme dans le cadre de d'un développement durable.
Alors d'emblée, c'est une épreuve qui doit forcément aboutir à trois parties, ou alors un élève peut faire deux parties s'il en a envie.
Non, tout à fait. Après, il n'y a pas d'obligation de faire trois parties. Disons que ce qui est important, c'est que ce soit cohérent et que le contenu soit présent. En fait.
D'accord. Bon, si ce n'est que là, effectivement, dans l'intitulé, les trois parties sont presque induites. Donc, on se dit, on n'est pas forcément obligé de faire original. Suivons un petit peu ce qu'on nous a...
Tout à fait. Non. Effectivement, voilà. En général, il n'y a pas besoin d'être très original. Là, quand c'est clairement donné, il suffit de suivre hein, le plan qui est conseillé.
Alors, donc, concrètement, allons-y peut-être, Annie-Claire Abueuf-Bardin. Vous commenceriez déjà dans l'introduction?
Alors, en fait, l'introduction, ça, c'est valable pour tous les sujets et pas seulement celui-ci. Hein, donc, il y a toujours trois parties qu'on va retrouver. Donc, une première partie, c'est l'entrée, ce qu'on appelle l'entrée en matière, où on peut parfois définir les sujets ou partir plus du général et aller cibler sur donc la géothermie. Donc je donne un exemple.
Allez-y. Oui.
Donc on pourrait partir en disant qu'à la surface de la Terre on a deux sources d'énergie inépuisable, avec le cas bien sûr hein, du solaire et du géothermique. Donc là, de dire qu'on va cibler sur le géothermique et donc reprendre l'intitulé en parlant de machine thermique. Et donc c'est là justement qu'on peut définir une machine thermique hein, en disant que elle va transformer de l'énergie thermique en énergie mécanique. Et comme le disait tout à l'heure Monsieur Jopard, hein, c'est effectivement ce qui constitue le moteur de la tectonique des plaques. Effectivement, donc cette énergie va se manifester en surface, et même si on a une puissance hein, qui est bien plus faible que l'énergie solaire, ça reste quand même quelque chose, une ressource tout à fait intéressante pour l'homme. Donc voilà, alors après il faut...
Dans l'introduction, annoncer le plan.
La problématique, la problématique, et donc là ce que je dis en fait c'est de pas faire original, il n'y a pas besoin de reformuler le sujet, donc simplement on peut redire un tel quel, donc on peut dire donc quelles sont les origines et les manifestations de cette énergie interne, comment l'homme peut-il en tirer parti dans le cadre d'un approvisionnement énergétique durable. Voilà, donc effectivement il n'y a pas d'implicite, il faut vraiment que cette problématique apparaisse dans l'introduction. Et après, effectivement, on fait une annonce du plan. Mm-hmm. Et donc, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que nous répondrons à ces questions en étudiant tout d'abord donc les origines de l'énergie interne, puis nous verrons les manifestations en surface de la libération de cette énergie. Et enfin, nous verrons comment l'homme peut utiliser l'énergie géothermique dans le cadre d'un développement durable. Voilà, au risque d'être un petit peu redondant, c'est quand même quelque chose d'assez codifié et le correcteur attend vraiment qu'il y ait et la problématique et l'annonce du plan. Hein, donc, faut pas hésiter à vraiment le faire, même si ça paraît parfois un petit peu artificiel.
Bon, respecter le cadre, en tout cas, demandé. Hein.
Voilà, tout à fait.
Alors, grand 1, origine de l'énergie interne de la Terre. À partir de là, petit A, petit B, petit C, en tout cas, on leur propose de raconter et de dire, de partir déjà sur la désintégration radioactive d'éléments hein, contenus dans la croûte et le manteau, source principale de l'énergie géothermique. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé avec Claude Jopard, mais il y a tout ce phénomène radioactif qui explique aussi ce potentiel de chaleur.
Voilà, tout à fait. Alors d'ailleurs, je reviens pour les titres, en fait, c'est vrai que c'est pas explicitement, enfin c'est pas exigible, hein, mais moi je conseille aussi aux élèves de faire un plan, hein, c'est-à-dire de comme dans leur cours, quand ils mettent un grand 1 avec un titre, de faire la même chose, parce que je le dis donc à mes élèves, hein, mais il faut peut-être le redire, un correcteur de bac, il va avoir un nombre de copies énorme en très peu de temps. Donc je pense que tout ce qu'on fait pour gagner en clarté, finalement, c'est toujours ça de prix. Hein. Et quand le plan est là, clair, je pense que c'est beaucoup plus simple. Ça coûte pas grand-chose de le faire. Je sais que parfois, les élèves hésitent parce qu'on leur dit ben non, littérature, il faut surtout pas qu'il y ait de titres, etc. Là, on est dans un écrit scientifique, c'est pas du tout gênant. C'est même mieux qu'il y ait un titre présent. Alors pour la désintégration radioactive, hein, donc c'est là qu'ils peuvent parler donc de certains exemples, hein, donc l'uranium 238, le thorium 232, le potassium 40 également, et donc dire que la désintégration de ces éléments, désintégration radioactive, hein, libère de l'énergie sous forme de chaleur. Et alors une remarque aussi, c'est de dire hein, que ces éléments sont plus concentrés en réalité dans la croûte par rapport au manteau, mais comme en fait le manteau est une enveloppe beaucoup plus épaisse que la croûte, au final, hein, c'est bien le manteau qui va fournir la majorité de cette énergie radioactive. Et donc hein, la désintégration radioactive, ça va être la source principale hein, d'énergie interne. Alors après, on a d'autres sources. Donc ils peuvent évoquer hein, la chaleur de cristallisation du noyau interne. Donc dans les différentes enveloppes, hein, le noyau interne donc est solide, c'est ce qu'on appelle la graine, et le noyau externe lui est liquide. Et en fait, ce qu'on observe, c'est une conversion en fait du noyau externe qui va passer pour partie sous forme solide. Et donc ce passage de l'état liquide à l'état solide, voilà. Donc ça va libérer de la chaleur. Hein, c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. C'est en fait l'inverse d'une réaction de fusion, où là, c'est plutôt le milieu qui doit apporter de l'énergie. Et donc ça, c'est du coup aussi une source de chaleur. Et puis enfin, la dernière source, c'est la dissipation de la chaleur primitive de la Terre. Donc ça, ce sont des choses hein, que les élèves ont peut-être vu un petit peu en classe de seconde. Donc en fait, lors de la formation de la Terre, donc on en a parlé tout à l'heure, hein, il y a 4,5 milliards d'années,
oui.
Eh bien, on a la nébuleuse solaire, hein, donc c'est un nuage de poussière et de gaz, et en fait, on a des particules hein, qui vont s'agréger, et c'est ça qu'on appelle l'accrétion. Donc on a en fait une énergie gravitationnelle au début qui va se convertir en énergie thermique hein, qui perdure jusqà aujourd'hui. Voilà, donc ce sont
donc
les
là,
trois sources
voilà, là, on aura fait le tableau complet ou quasiment complet. Vous me dites hein, des origines de l'énergie interne de la Terre. Hein,
tout à fait, tout à fait.
Claude Jopard.
Oui, c'est tout à fait exact. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que la Terre, elle se refroidit. Donc, en fait, pour séparer la construction de chacune de ces sources d'énergie, il faut connaître l'histoire depuis le début. Ah. Donc, à l'heure actuelle, je vous ai dit que la Terre refroidissait à un taux de 100 degrés par milliard d'années, mais s'il n'y avait pas de radioactivité, c'est 200 degrés par milliard d'années. Donc, la radioactivité freine le refroidissement de la Terre.
D'accord. Voilà, encore une source d'information utile peut-être pour les élèves. Et donc, à la fin de cette première partie, Annie-Claire Veuve-Bardin, donc il faut pouvoir prévoir une transition pour basculer sur la partie 2, manifestation en surface de la libération de cette énergie.
Voilà, tout à fait. Ce qu'on conseille aussi aux élèves, ça peut être le petit plus, hein, justement, qui fait passer la note peut-être de 16 à 18 ou même à 20, hein, puisqu'on met des 20 sur 20, hein, mmh. les épreuves écrites. Et donc effectivement, la transition, ce serait de dire que donc on a une énergie qui se traduit en surface par de nombreuses manifestations. Donc on a parlé avec Monsieur Jopard des éruptions volcaniques, mais bon, il y a aussi les geysers, les sources hydrothermales, et peut-être aussi donc du coup se poser la question de savoir les mécanismes qui sont susceptibles de transférer cette énergie interne du globe de l'intérieur vers la surface, et également comment ces manifestations vont se répartir sur Terre. Là, peut-être, effectivement, c'est pas explicitement dit dans le sujet, hein, mais il va falloir aborder de toute façon les transferts, puisque si on parle de l'origine et ensuite des manifestations, ça pose quand même la question du transfert les deux. Oui. Alors moi, j'ai choisi de l'aborder dans la deuxième partie. Mais c'est tout à fait possible de l'envisager à la suite des origines, en fait. Ça, c'est, encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est plus le contenu que le plan réellement qui est important.
Et j'en profite pour préciser aux auditeurs que, bien évidemment, votre copie, idéale en tout cas, est disponible sur le site de l'émission franceculture.fr où vous pourrez voir justement tout ce plan très détaillé et puis également les schémas proposés. Voilà. Alors on poursuit donc dans ce grand 2, je vois qu'il y a aussi des termes, hein, parce que on disait qu'il y avait des définitions, des mots-clés et des notions à donner, là, comme par exemple la convection, la conduction. On attend aussi des élèves qu'ils soient très précis dans par rapport aux mots qu'ils utilisent.
Tout à fait, voilà. Donc ce sont des notions en général qu'ils ont vues en classe, même en travaux pratiques, hein. Donc on a assez longuement travaillé sur ces deux notions, donc je pense que convection, conduction ne sont pas des notions qui doivent
poser problème
a priori, donc il faut les redéfinir rapidement.
Montrer au moins qu'on sait de quoi on parle.
Voilà, tout à fait. Et puis après, bon, peut-être plus voir en fait, après les appliquer au cas du globe terrestre. Hein, donc pour la convection, par exemple, on peut dire que c'est quelque chose du coup qui est très efficace. Et que ça va engendrer un faible gradient thermique, hein, entre la profondeur et la surface. Donc là, ils ont étudié un certain nombre de graphiques, hein, qui leur expliquent bien ça. Et du coup, de par les données de la tomographie sismique, ils ont aussi étudié des documents par tomographie sismique, de remarquer que du coup, c'est un mode de transfert, hein, la convection qui s'opère surtout dans la sténosphère, mais aussi dans le manteau inférieur. Et puis, alors, bon, on en parle un petit peu moins, mais aussi dans le noyau externe. Alors, pour ce qui est de la conduction, donc, il peut être défini comme le transfert de chaleur de proche en proche, sans déplacement de matière, là, donc ils ont vu à travers différentes expériences que c'était, donc vous rappelez, c'était les expériences sur le TP purée, voilà. Hein. Donc on fait en fait une expérience avec des purées de consistance diverses, donc plus ou moins liquides. Et donc là, on a vu que c'était un transfert qui était donc peu efficace et donc avec un fort gradient thermique entre la profondeur et la surface. Et donc là, c'est au niveau de la lithosphère essentiellement que s'opère ce mode de transfert.
Et ensuite, donc, petit b, une inégale répartition du flux géothermique à la surface de la lithosphère. Hein, on en a parlé un peu avec Claude Jopard dans la première partie. C'est donc expliqué effectivement que suite au transfert de l'énergie géothermique des profondeurs vers la surface, cette énergie peut être libérée en surface. Et le flux géothermique permet donc d'évaluer ce transfert. Là, il faut parler du flux géothermique et puis du flux géothermique qui varie aussi, hein, selon le contexte écologique.
Voilà, donc là, effectivement, il y a des termes à définir. Notamment, il parle du gradient géothermique. Donc, il faudra qu'il définisse ce gradient géothermique de manière simple, hein, mais en parler un petit peu, donner sa valeur moyenne, hein, qui est donc de 30 degrés par kilomètre. Et donc, les variations, effectivement, selon le contexte géologique. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Monsieur Jopard. Donc, il y avait effectivement le cas des Philippines. Hein, donc, c'est le cas, par exemple, d'arc volcanique associé aux zones de subduction. On a le cas des dorsales océaniques avec l'Islande. Groenland, hein, qui est situé sur la dorsale médio-atlantique. On a le cas des points chauds avec donc le cas, on avait étudié le cas du parc de Yellowstone aux USA, et puis de l'Islande, hein, puisque l'Islande, comme le disait Monsieur Jopard, il y a un peu tous les types de volcanisme, est à la fois sur un point chaud et sur la dorsale.
C'est un pays modèle.
Voilà.
Donc en tout cas, qu'ils n'hésitent pas à alimenter leur copie d'exemples étayés.
Tout à fait. Ouais. Là, ils ont effectivement normalement toutes les données, puisqu'on a fait des travaux pratiques, hein, sur Google Earth, où ils sont allés voir des exemples très précis. Donc ils ont a priori, hein, les données pour.
Alors peut-être avant, on va marquer une petite pause avec eux, justement. Est-ce que à ce stade du déroulé, hein, de la copie, les uns et les autres, vous aviez imaginé un petit peu un plan de cette nature-là? Qui veut prendre la parole? Alors Maya, Hugo.
Oui, je veux bien essayer. Moi, en fait, j'avais plus pensé à mettre les modalités de transfert dans la première partie avec l'origine de l'énergie. Et après, le flux géothermique, je l'avais mis dans la partie manifestation. Parce que pour moi, c'est aussi une façon dont l'énergie se manifeste à la surface de la Terre.
Alors, Annie-Claire Abuel-Bardin, est-ce que c'est possible?
Tout à fait. Hein, pour l'origine, je disais, donc moi j'ai choisi de traiter les transferts dans la deuxième partie, mais on peut tout à fait la traiter dans la première partie, hein, à la suite des trois sources principales. Après, pour le flux géothermique, moi je le traite, hein, dans la deuxième partie aussi, donc du coup je pense que c'est tout à fait cohérent avec ce que vous aviez pensé.
Claude Jopard, vous vouliez réagir?
Non, je veux juste dire que on parle souvent de l'Islande, de tous ces beaux pays, mais en fait, vous avez de l'énergie et des volcans très près de chez vous. Donc, c'est bien aussi d'alimenter la façon en disant, ben oui, mais en fait, on n'a pas toujours besoin d'aller chercher dans des
contrées
aussi lointaines que ça, l'Allemagne, l'Italie, ces endroits-là.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors, j'avais pas terminé, mais on a pris l'exemple de Soultz-sur-Forêt. Oui, ils l'ont étudié. On a pris l'exemple de Bouillante aussi en Guadeloupe. Donc, oui, ce sont aussi des. C'est vrai qu'on avait fait une partie plus locale. On est parti sur Soultz, on est parti un petit peu sur Bouillante.
Il y a aussi l'exemple de Chevilly-la-Rue, hein, avec la centrale géothermique.
Voilà. Tout à fait, oui. On a Chevilly-la-Rue, voilà. Mais, de toute façon, ils habitent pas très loin. Chevilly-la-Rue, Fresnes, hein. C'est vrai qu'on est dans des zones qui sont très. Alors, peut-être pas exactement chez vous, mais c'est vrai, dans le Val de Bièvre, plus près de chez moi, on est chauffé par géothermie. Donc, oui, tout à fait.
Donc,
c'est
on peut exploiter ces éléments-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions précises, non, les uns les autres, pour l'instant? On continue à dérouler la copie? Allez, on y va, Annie-Claire Abuel-Bardin. Donc, grand 3, puisque...
Alors, peut-être juste à ce moment-là, c'est là que j'aurais placé, moi, le schéma clé, peut-être, un
candidat d'argument... À la fin de la deuxième partie.
Voilà, d'un schéma au moins. Donc, si on en fait un seul, peut-être le faire à ce moment-là. Donc, c'est là que le schéma classique, hein, de la Terre, une machine thermique, donc qui est en annexe 1, est à placer, je pense.
D'accord, donc vous pouvez voir, hein, je le rappelle, sur le site de l'émission. Voilà, il y a effectivement un schéma qu'on trouve assez régulièrement dans les livres scolaires et dans les programmes.
Classique.
Voilà. Alors, grand 3, la dernière partie, utilisation de l'énergie géothermique par l'homme et développement durable. Donc, l'énergie géothermique, hein, utilisable et variable d'un endroit à l'autre en rapport avec l'hétérogénéité du flux géothermique qu'on a évoqué donc dans la partie précédente. Et donc, il y a des zones favorables. Et là, vous proposez, Annie-Claire Abuel-Bardin, de traiter cela en trois parties. Donc, petit A, l'utilisation de la géothermie à des fins de chauffage. Petit B, l'utilisation de la géothermie pour la production d'électricité, puis petit c, l'utilisation de la géothermie dans le cadre d'un approvisionnement durable.
D'accord. Alors effectivement, hein, donc la géothermie à des fins de chauffage, c'est aussi ce qu'on appelle parfois la géothermie basse énergie. Hein, donc là, en fait, on va récupérer l'énergie thermique à faible profondeur, donc ça va être dans le sol ou dans le sous-sol. Et donc ça peut se faire, hein, via des pompes à chaleur pour le chauffage individuel. Donc là, on capte l'énergie à quelques dizaines de mètres de profondeur. Ou alors en récupérant l'énergie dans des aquifères. Donc c'est ce dont on parlait, je crois, pour c'était l'exemple, hein, de la maison de la radio, hein, justement. Donc on va puiser dans l'aquifère avec des températures comprises, alors entre, moi j'avais lu entre 30 et 100 degrés, mais du coup on va modérer, on va dire entre 27 et,
voilà,
et 100 degrés pour bien coller avec la maison de la radio.
Oui, et en même temps, je crois que aujourd'hui avec les travaux de la maison de la radio, on va chercher une eau un petit peu moins chaude, mais qui malgré tout joue son rôle dans les circuits de la maison de la radio. Donc, on peut même baisser un petit peu, je crois.
Alors, quand on va dans les aquifères, du coup, là, on peut aller vraiment pour du chauffage urbain. Et donc, là, on est plutôt, donc effectivement, sur des centaines ou milliers de mètres de profondeur. Hein, donc, beaucoup plus que le chauffage individuel. Et donc, effectivement, on a aussi le cas de la centrale, hein, géothermique de Chevilly-la-Rue. Alors, pour la production d'électricité, donc c'est ce qu'on appelle la géothermie, cette fois, haute énergie. Et donc, ça va être dans des régions où, cette fois, le flux géothermique vraiment est élevé. On va utiliser directement des fluides, hein, très chauds. Et l'exemple, hein, effectivement, c'était l'exemple de la centrale de bouillante en Guadeloupe, hein, qui où on va récupérer des vapeurs d'eau bouillante, hein, d'où le nom de la centrale.
De la centrale.
Voilà, et du site. Et donc, en fait, ça jaillit avec une pression en fait tellement importante que ça permet de vraiment alimenter des turbines. Et donc, pour terminer, dernière partie sur l'utilisation de la géothermie dans le cadre d'un approvisionnement durable. Alors, donc, le prélèvement de l'énergie hein, géothermique, c'est infime par rapport aux ressources de la Terre. Donc, on peut la considérer comme inépuisable, hein, en tout cas à l'échelle humaine. Alors, c'est vrai que il y a peut-être un petit bémol, c'est que en fait, quand on parle de ressources inépuisables, on ne compte pas l'électricité qu'on injecte dans les pompes à chaleur. Donc, c'est sans compter l'aspect pompe à chaleur. Il y a aussi l'avantage hein, que donc on a une diminution des émissions de CO2 atmosphérique par rapport aux énergies fossiles et par rapport au nucléaire, on n'a pas les problèmes d'évacuation ou de stockage des déchets. Alors, il y avait quand même un petit bémol, j'avais vu, qui avait un peu freiné les installations. C'était qu'il y avait des...
Et oui, les coûts.
Oui, et puis voilà, des fluides aussi frigorigènes, apparemment, dans les premiers temps, qui étaient un petit peu néfastes hein, sur la couche d'ozone. Mais là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un remplacement hein, par des nouveaux fluides moins toxiques.
Alors, comme il nous reste peu de temps, je vais quand même donner la parole aux élèves. Alors, allez-y, Guillaume.
Oui, j'avais une question à poser à Monsieur Jopard à propos, lorsque vous avez parlé des pays moteurs dans le monde, comme par exemple l'Islande, grâce à un contexte géologique plutôt favorable, est-ce que grâce à l'énergie géothermique, on pourrait répondre aux besoins de l'ensemble de la population mondiale ? On a parlé du problème du coût des infrastructures, par exemple, et si c'est trop ambitieux, justement, là je m'adresse à ma professeure, plutôt le placer en termes de limite, comme une limite à la fin de la troisième partie ou dans la conclusion.
Tout à fait. Hein. Moi, c'est vrai que de mon côté, je voyais ça comme une limite. Hein. C'est vrai que pour l'instant, vu que c'est extrêmement coûteux, vu que c'est aussi en moyenne, hein, je crois qu'il faut 5 ans pour construire une centrale géothermique. Donc, ça va être une limite à l'utilisation, en tout cas avec les technologies actuelles. Mais bon, je vais laisser Monsieur Jopard compléter.
Je me permets de dire que pour une centrale nucléaire, c'est plus que 5 ans d'habitude, et qu'en plus après, pour gérer les déchets, c'est pendant des centaines d'années qu'on va les traîner. Donc là, je pense que l'énergie géothermique a un gros avantage. Non, l'énergie géothermique ne peut pas répondre aux besoins d'énergie de toute l'humanité. Ça peut être qu'un apport d'énergie marginal, mais c'est un apport d'énergie qui maintenant est parfaitement maîtrisé. L'Islande en donne un exemple. Ça s'exporte dans tous les pays. Donc c'est une source d'énergie qui est facile et qui est finalement peu chère en fait. Il y a un petit investissement initial, donc il y a un risque à l'exploration. Mais une fois qu'on a trouvé la ressource, c'est rentable très très rapidement. L'exemple de Bouillante est parfait. C'est une installation qui date de, si je ne me trompe pas, de 1975. Et ça marche parfaitement. Alors, et ça marche depuis 1975.
Alors, une dernière question rapide. Maya, on arrive au terme de l'émission. Déjà. Et la conclusion de la copie, je crois qu'on la découvrira sur le site. Allez-y.
Bah justement, je me demandais s'il était judicieux de parler en conclusion de l'actualité. Je pensais juste notamment à la COP21.
Annie-Claire Abbeuf-Bardin.
Oui, alors tout à fait, effectivement, hein, dans le cadre d'un développement durable, c'est tout à fait judicieux et effectivement, ça pourrait être une solution hein, pour effectivement pallier au problème hein, de réchauffement climatique. Donc de toute façon, ce sera une technique hein, qui sera effectivement à explorer et sans doute à améliorer pour qu'elle se diversifie. Alors si c'est pas possible en termes d'électricité, au moins en termes de chauffage.
Merci à tous. Il est 16h57 et 30 secondes précisément et nous devons effectivement rendre l'antenne pour l'émission de la suite. Donc merci Claude Jopard, merci Annie-Claire Abbeuf-Bardin, merci à vous tous les élèves de Terminal S4, Béatrice Potier aussi la proviseure du lycée Marie Curie de Sceaux pour avoir facilité l'organisation de cette émission et la venue des élèves. On vous souhaite à tous bien sûr le meilleur et à tous ceux qui passeront ces épreuves du baccalauréat, nous serons avec vous. Sur France Culture, en tout cas, c'est sûr, hein, le bac est à l'honneur, sur les antennes et sur franceculture.fr pour l'histoire, la philo, le français, toutes les sciences, en partenariat avec Le Monde Campus. Et puis on écoute là le dernier choix musical, Full Moon de Petit Biscuit, le choix musical des élèves de TS4. Merci à vous tous. Et bien sûr, les informations, les liens sont à retrouver sur le site de l'émission La Marche des Sciences. Vous pouvez réécouter l'émission, la télécharger, nous suivre sur Twitter et sur la page Facebook.
Et c'est la fin de la Marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Émission préparée avec Catherine Donnet, Anaï Morales, sans oublier Caroline Chausset de la Côte Documentation Sonore de Radio France, à la réalisation Alexandra Malka, la technique, Élise Le, Anthony Thomasson. La semaine prochaine, eh bien, autre semaine spéciale consacrée à la relève des savoirs. Et nous accueillerons trois jeunes historiens des sciences sur un terrain de recherche en pleine ébullition. Terre, mer, environnement, une histoire des sciences qui a le vent en poupe. Et puis n'oubliez pas, demain, Michel Albergantier, Sciences Publiques, à 16h, avec au programme la préparation de l'épreuve du bac physique-chimie en section professionnelle.